Nouvelle policière. Le fugitif de Boileau-Marsejac. L'homme dormait à genoux et son buste oscillait lentement au rythme de sa respiration. Le cric était engagé sous la roue avant droite dont le pneu était à plat. Par terre, il y avait la manivelle que l'homme, terrassé par la fatigue, avait brusquement lâchée. La nuit était claire, on apercevait à gauche de la route des crêtes montagneuses. Des grillons chantaient à l'infini. En apercevant la deux chevaux, Michel avait instinctivement ralenti. Cette auto, à une pareille heure, à deux pas de son campement, il fit quelques prudentes enjambées et ce fut alors qu'il découvrit l'homme. Il se pencha, le contempla longuement. L'inconnu pouvait avoir 40 ans, autant que Michel put en juger. Il devait être grand. Les épaules étaient larges, bien moulées dans un léger chandail à col roulé. Les traits étaient durs et creusés, le front haut. Une barbe de 2 jours envahissait les joues. Mais ce qui paraissait absolument inattendu, c'était les lunettes. Des lunettes à monture métallique, comme personne n'en porte plus, et dont les verres épais pour myopes déformaient les paupières closes. Michel hésita un instant, sourit en se rappelant le temps pas tellement éloigné du scoutisme et de sa béa quotidienne. Besoin de quelque chose ? Pas de réponse. « Hé, monsieur !» Michel n'insista pas. Il ramassa la manivelle, pesa de tout son poids sur le dernier écrou, puis il retira la roue, attrapa la roue de secours, la mit en place très vite, avec infiniment d'adresse, s'essuya les mains, se retourna. L'homme était maintenant debout. Il avait reculé de quelques pas silencieusement. Il braquait sur Michel un gros pistolet. « Merci, dit l'homme, tu tombes bien !» Michel était si surpris qu'il ne songeait même pas à avoir peur. « La roue !» reprit l'homme avec un très léger accent. « La roue dans le fossé, derrière !» Et Michel ramassa la roue, la poussa dans le vide, où elle ricocha de pain en pain. « Quel âge as-tu ? » demanda l'homme. « 18 ans. « Qu'est-ce que tu fabriquais dehors à cette heure ?»«
Je campe là. »
« Et quand tu m'as vu en panne, tu t'es tout de suite mis au travail, brave petit ?» Tu aimes à rendre service, hein ?
Bah, quand je peux. L'homme s'avança.
Alors, tu vas encore servir à quelque chose. Vite tes poches. Michel hésita une seconde, puis déposa sur le capot un harmonica, un mouchoir, un couteau, un paquet de cigarettes tout cabossé, de la ficelle.
Ouvre le couteau, dit l'inconnu.
Mais je te préviens, j'aime pas le dire les choses deux fois.
Michel ouvrit le couteau, le reposa sur le capot.
« Maintenant, écarte-toi !»
L'homme vint près de la voiture, coupa un morceau de ficelle sans cesser de surveiller Michel. Puis passant la ficelle dans l'anneau fixé à la crosse de son arme, il fit une sorte de dragonne qui l'attachait à son poignet.
« Tu te demandes pourquoi, hein ?»«
Non, dit Michel, qui reprenait lentement son équilibre. « Vous avez peur de vous rendormir et de lâcher votre joujou ?»«
Exactement, j'ai peur. C'est pourquoi, au premier geste suspect, je tire. »
Il referma le couteau et le fourra dans sa poche, puis désignant le capot.
« Tu peux reprendre le reste, c'est pas dangereux. Et maintenant, monte, petit !»
Michel, docile, marcha vers l'arrière de la deux chevaux.
« Non, c'est moi le passager, et c'est toi qui conduis. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Après ce que tu viens de faire, et pas trop vite, hein, j'ai tout le temps. »
Ils s'installèrent, Michel au volant, l'homme juste derrière lui.
« Tout droit, je te dirai quand il faudra tourner. »
La voiture démarra, l'homme, instinctivement, s'était renversé sur la banquette, mais il se redressa aussitôt.
« Parle !»«
Quoi ?
Je te dis de parler.
»« Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?»«
N'importe quoi, je te demande seulement de parler fort. Parle-moi de toi, tiens. »
Dans le rétroviseur, Michel voyait le visage de l'homme, les deux petits points miroitants de ses lunettes.
« Ben, je m'appelle Michel Mauroy, j'ai un frère, 15 ans, et une sœur, qui a 7 ans. » « Je suis étudiant, je fais de l'autostop pendant mes vacances. La semaine dernière, j'étais à Menton, puis je suis revenu à Toulon, puis on m'a ramené à Saint-Tropez. Et de là, à Draguignan. Je dois rentrer chez moi dans une quinzaine. Je prépare les travaux publics. C'est dur, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup les maths, surtout la géométrie. »
Michel regarda le rétroviseur. Il lui sembla que la silhouette de l'homme s'était un peu tassée.
Tout en me promenant, je révise mes cours. « Ce n'est pas des blagues, je fais ça de tête.
Vous voulez que je vous récite la théorie de Dandelin ?
Nouveau coup d'œil au rétroviseur, l'homme n'avait pas bougé.
Tout plan parallèle à un plan tangent à un cône de révolution coupe le cône suivant une parabole. Le foyer est le point de contact avec le plan séquent de la sphère inscrite dans le cône et tangente à ce plan. La directrice est l'intersection du plan du parallèle, de contact de la sphère et du cône avec le plan séquent.
Ils croisèrent une voiture. À la lumière des phares, Michel put plus distinctement observer l'homme. Il était maintenant affaissé contre la vitre, la bouche pendant un peu comme celle d'un mort.
Le lieu des sommets des cônes de révolution contenant une parabole donnée est la parabole focale de celle-ci. Cette courbe est aussi l'enveloppe des axes des cônes considérés.
La deux chevaux virait dans des lacets étroits, ballottant l'homme affreusement. Michel ralentit encore, s'arrêta.
Toute section plane d'un cylindre de révolution est une ellipse dont le petit axe est égal au diamètre du cylindre.
Il tendit la main vers la poignée de la portière. L'homme ouvrit les yeux.
« Eh bien, petit !»
Michel embraya. L'homme s'était appuyé en avant, sa tête tout près de celle de Michel.
« Crois-moi, je tiendrai le coup. Seulement, il vaut mieux que ce soit moi qui te parle. C'est ma cinquième nuit sans dormir. Tu sais ce que ça veut dire, cinq nuits sans dormir ?»«
Non, personne ne sait. Il n'y a rien qui ressemble à cela. Il paraît qu'on en meurt. Si je te disais que j'ai failli me rendre, simplement pour avoir le droit de fermer les yeux. » Il parlait d'une voix monotone, prononçant certains mots avec un bizarre accent qui ne ressemblait à aucun de ceux que connaissait Michel, et son débit était coupé de brefs silences. Parfois, il bredouillait un peu, comme quelqu'un qui aurait bu, ou peut-être comme un drogué.
« Mais ils m'auraient tué, tu comprends ? On ne peut plus me laisser vivre, ils sont tous après moi. Tu ne lis pas les journaux, petit ? Non, tu n'as pas une tête à lire les journaux. Et puis vos journaux n'ont pas dit grand-chose. »
Il appuya son bras gauche sur le dossier du siège avant et posa le menton sur son poignet. Le mouvement de sa mâchoire agitait sa tête.
Ça s'est passé si loin, j'ai dû les tuer tous les trois. Le troisième, sa moto a continué toute seule. Il m'a poursuivi pendant 200 mètres et pourtant il était mort. À la fin, il est sorti d'un virage et il a été projeté en l'air, les bras en croix, comme un plongeur.
Sa parole était étrangement paisible. Ses gros yeux, un peu troubles, semblaient regarder très loin, au-delà du pare-brise.
« Maintenant, ils m'abattront à vue. Je ne peux plus m'expliquer. C'est trop tard. Tu comprends, petit. Tout s'enchaîne tellement vite. On n'a rien voulu. Et puis tout à coup, on les a tous après soi. Même les chiens. Pourtant, je n'ai rien fait aux chiens. Ils ont déjà failli m'avoir. Les hommes, ça m'est égal de leur tirer dessus. Mais les bêtes, c'est pas la même chose. Chez moi, dans mon pays, c'est plein de moutons. »
Sa voix mua bizarrement. «
Tu ne peux pas imaginer, tous ces moutons, c'est chaud comme le vent du sud. On marche au milieu, on est porté. C'est comme la mer. J'avais deux chiens aussi, c'est loin. On se battait ensemble, on s'amusait, quoi. »
Machinalement, l'homme ramena son bras droit sur le dossier. Le pistolet pendait au bout de sa ficelle, se balançait au rythme de la marche.
« Je n'étais pas méchant, c'est après tout ce qu'ils m'ont obligé à faire. »
Il sursauta, secoua la tête violemment.
« Bon Dieu, je dors encore. Qu'est-ce que je disais ? Réponds, tu m'écoutes, hein, pour tout leur répéter. »
Il se pencha par-dessus le dossier, consulta, le front tout plissé par l'effort, le compteur kilométrique.
« Dans une heure, nous y serons. On doit venir me chercher en camion et on me fera passer en Italie. Là-bas, on me cachera. Tout est arrangé, j'ai eu assez de mal. »
« On fouillera le camion à la frontière, dit Michel. »
« Non, ah, t'es bien comme les autres, toi. Tu souhaites qu'on me prenne, tu me détestes, hein. C'est ce que je t'ai raconté.
Qu'est-ce que je t'ai raconté ?
Que vous aviez descendu trois bonhommes.
Et puis ? Bah, c'est tout.
Je ne t'ai pas parlé de celui d'hier ? Celui qui avait une Lancia ?
Non.
J'ai dû l'assommer, il me résistait. Après, j'ai planqué la voiture, tu comprends ? En ce moment, on me recherche à bord d'une Lancia.
Et s'il n'avait pas résisté, dit Michel ?
Est-ce que je sais ? Ne pose pas de questions, petit. »